Nous accueillons Élodie maintenant au 3921. Bonsoir Élodie.
Bonsoir Olivier.
Comment allez-vous ?
Mais je fais aller et vous, comment allez-vous ?
Écoutez, ça va. Moi, à chaque fois, je suis là le soir. Les mots me portent, les mots des autres me portent. Parce que je dis toujours à Florian, à Natacha et à Jean-François qu'à chaque libre antenne, on ressort plus riche, en fait, parce qu'on a appris des autres. Et les autres ont un peu appris aussi des autres. Donc, c'est plutôt agréable de se sentir un peu plus au courant. Voilà.
Oui, oui, tout à fait.
Dites-moi ce qui vous amène, Élodie.
Alors, il s'agit plus précisément, c'est au sujet de ma sœur Drif Valérie, qui a vécu un malheur. Hein, donc, elle a été tuée par sa compagne à Carcassonne le 8 octobre 2018, hein, victime de violences conjugales.
D'accord. Elle a été donc assassinée ou elle est morte suite à des violences conjugales, ce qui revient à la même chose, hein, me direz-vous. Mais est-ce que
assassinée clairement puisque sa compagne en fait a dans un premier temps a fait passer ça pour un suicide par pendaison, mais avec l'autopsie que ma sœur a subie, il a bien été démontré ce que nous on pensait depuis le départ que donc elle a subi. Elle a été tuée clairement par strangulation. Voilà.
Alors, si vous le voulez bien, reprenons les choses étape par étape
bien
pour
sûr.
Que celles et ceux qui nous écoutent comprennent bien ce qui est arrivé. Donc, votre sœur, quel âge avait-elle, votre sœur, Valérie ?
32 ans.
32 ans. Donc, Valérie avait 32 ans. Elle vivait depuis combien de temps avec sa compagne ?
11 ans.
11 ans, d'accord.
Oui.
Et. Sa compagne avait quel âge ? Le même âge ?
Non, 2 ans de plus, 34 ans.
D'accord. Et en fait, est-ce que vous étiez au courant, Élodie, que votre sœur était victime de violences conjugales ?
Pas à ce point. Je savais qu'elle était maltraitée. Ça, je le savais, mais pas à ce point-là, quoi. Je ne savais pas que c'était à ce point, sauf les derniers temps où j'avais remarqué quand même des marques sur son corps. Et donc, à chaque fois, elle trouvait donc des excuses. Mais bon, elle ne pouvait pas m'expliquer les traces de cigarettes, des brûlures qu'elle avait, quoi. Elle avait des traces de cigarettes sur le corps.
D'accord. Donc, vous avez donc vu qu'elle était...
Ah oui, oui.
Ouais.
Oui, oui, je l'ai vue. Mais bon, ma sœur, au départ, là, à ce moment-là, elle était tellement sous emprise qu'elle trouvait bon, des excuses, mais qui ne tenaient pas la route. Je le voyais bien, mais je ne pouvais pas non plus la brusquer, quoi. Je voyais qu'elle ne voulait pas trop m'en parler au départ.
Oui.
Je voulais pas, j'avais insisté à un moment donné, mais elle m'expliquait qu'elle m'en parlerait le moment venu, mais malheureusement, elle est morte avant de pouvoir me l'expliquer, quoi.
Elle avait peur, votre sœur. Elle avait peur de vous le dire.
Elle avait peur de me le dire, mais je pense aussi, voilà, surtout parce qu'elle avait peur de sa compagne. Elle avait très, très peur de sa compagne.
Peur d'être punie, en fait.
Oh oui, 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 c'est sûr.
Quelle relation vous entreteniez avec cette compagne, vous ?
Moi, très, très mauvaise. Hein. Je ne l'aimais pas. Clairement, je ne l'aimais pas. Avec ma famille, on avait essayé que ça se passe bien au départ, hein. Mais étant donné que on voyait très bien que c'était par profit qu'elle s'était mise avec Valérie, forcément, on ne pouvait pas l'apprécier.
Vous entreteniez de bonnes relations, votre père, votre mère. Vous êtes combien d'enfants dans la famille ?
On est trois filles. Trois filles.
D'accord.
Oui.
Et vous vous entendiez bien toutes avec vos parents ?
Ah oui, 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 oui. Sur ça, après, bon, attention, il faut savoir que à cause de de cette emprise qu'elle avait sur Valérie, elle avait quand même réussi à un moment donné, à une période, à faire fâcher ma grande sœur Sandrine avec mon père aussi.
D'accord.
Valérie donc
d'accord.
Était fâchée avec Sandrine et mon père à un moment donné.
Mmh.
Après, bon, le contact avait été renoué avant son décès à Valérie.
Oui.
D'ailleurs, on devait tous se revoir en famille, mais on n'a malheureusement pas eu cette occasion.
Alors, vous me disiez que votre sœur avait été victime de violences conjugales. Est-ce qu'elle avait porté plainte déjà contre sa compagne ?
Oui, quelques mois avant son décès, elle a porté plainte, oui.
D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que... c'était chez les gendarmes, c'était chez dans un commissariat?
Oui, dans un commissariat qui était juste de l'autre côté de chez elle. C'était d'accord. À quelques mètres de son domicile.
D'accord, oui. À Carcassonne donc.
À Carcassonne, oui.
D'accord,
oui, oui.
Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que vous me disiez, quand on porte plainte pour des violences, donc je suppose que c'était assez grave ce qu'elle avait
oui. Vécu. Elle avait subi des coups et blessures de la part de sa compagne. Elle avait été attaquée au niveau de la tête avec une bouteille en verre, et, ainsi qu'aux chevilles.
D'accord. Qu'est-ce que la police a fait suite à cette plainte?
Rien du tout. Il n'y a rien eu. La plainte, elle a bien été prise, mais il n'y a pas eu de suite.
D'accord. Donc ça veut dire, je le précise, que ce ne sont absolument pas les policiers, mais le procureur à Carcassonne, donc qui n'a pas suivi, en tout cas qui n'a pas jugé bon de prendre au sérieux cette plainte,
voilà,
pour coups et blessures. Hein,
voilà, clairement oui, c'est ça.
Donc, quelques mois après, votre sœur a été assassinée, comme vous
oui.
le dites ce soir. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle a été assassinée?
Mais déjà, elle avait énormément de coups, hein, de la tête aux pieds. Donc, c'est-à-dire que nous, quand on a été prévenus, c'est sa compagne qui nous a prévenus, hein, nous a appelés pour nous dire que Valérie était à l'hôpital, ce jour-là, le 8 octobre. La première version qu'elle va nous donner, c'est que Valérie s'est électrocutée, que son cerveau a grillé.
Mmh.
Et ensuite, elle va nous dire finalement, elle a fait une tentative de suicide par pendaison. Donc nous, de là, on monte directement à Carcassonne, à l'hôpital. Et quand on voit Valérie sur le lit, elle est complètement, elle est limite défigurée. Défigurée parce qu'elle a des coups partout au niveau du visage.
D'accord.
Elle a aussi des coups au niveau du corps. Donc des bleus partout, elle a des hématomes. On n'y croit pas, quoi. Quand on voit ça, on se dit, mais c'est pas possible.
Mais même au niveau votre sœur, lorsque vous la voyez, elle est encore en vie ou elle est décédée?
Non, elle est encore, elle est maintenue, elle est sous machine.
D'accord.
Mais elle est dans un coma.
D'accord.
Voilà, elle est dans le coma à ce moment-là. Et puis, les docteurs nous disent clairement que c'est la fin. Que la doctoresse dira à mes parents... que leur fille est partie d'une mort violente bien avant que son cœur ne s'éteigne. Hein. Parce qu'elle dira qu'il n'y aura plus rien à faire, quoi.
D'accord. Qu'est-ce qui... parce qu'aujourd'hui, vous parlez d'un assassinat, en fait.
Oui, tout à fait.
Quelles ont été les constatations faites par, je suppose, les pompiers ou les médecins qui ont recueilli donc, votre sœur à différentes étape, hein, puisqu'il y a d'abord les pompiers qui ont dû venir
oui.
là, d'accord. Et donc
oui,
après,
oui.
après à l'hôpital, est-ce qu'il y a eu des rapports sur ce qui était arrivé à votre sœur?
Oui, tout à fait. Dans le rapport du SAMU, hein, enfin, les docteurs, tout ça, n'ont pas voulu signer le rapport comme quoi elle s'était pendue.
D'accord, parce que ça, c'était donc ce qu'avait dit la compagne de votre sœur.
Voilà, la compagne.
D'accord.
Exactement.
C'était sa
voilà.
version à elle.
Donc
voilà, là,
tout à fait.
Là, en fait, quoi, les pompiers refusent de signer comme quoi c'est une tentative de suicide.
Exactement.
D'accord.
Oui. Ils ne l'ont pas signé.
Et ensuite, les médecins.
Et ensuite, donc, les médecins nous expliquent que ma sœur est en souffrance cérébrale, qu'il va falloir songer à la laisser partir, étant donné qu'elle a quand même déjà trois organes qui ont cessé de fonctionner. Donc en premier le cerveau, le foie, et ensuite un rein. Et ça depuis chez elle quand même.
D'accord.
Avant qu'elle soit recueillie à l'hôpital.
D'accord.
Voilà. Donc moi je vais vous dire quelque chose quand même de très dur, hein, très lourd, c'est que un mois après le décès de ma sœur, moi j'ai eu un problème de santé par rapport à tout ça. J'ai fait une crise de tachycardie. J'ai été amenée donc à l'hôpital, à Carcassonne, là où elle est décédée. Et donc ensuite, à ce moment-là, moi quand j'ai été amenée par les ambulanciers, je suis tombée sur les ambulanciers qui se sont occupés d'elle le soir des faits. Ils m'ont dit qu'ils l'ont recueilli aux urgences et que en fait, ma sœur, quand elle est arrivée là-bas, il n'y avait déjà plus rien à faire pour eux et qu'elle était déjà morte. Hein.
D'accord.
Donc, si vous préférez, ils l'ont maintenu un petit peu, juste pour que nous, la famille, on puisse lui dire au revoir.
D'accord.
Voilà.
Et comment ça se passe ensuite alors? Parce que vous parlez d'assassinat. Est-ce que, vu le comportement des pompiers qui refusent de signer pour le suicide de votre sœur, puis oui. Ensuite les médecins qui parlent de violence, oui. Je suppose que oui. La police va s'en mêler.
Tout à fait. Ils vont venir nous indiquer qu'ils ouvrent une enquête. Donc oui. Ça, c'est très bien. Et que donc ils vont amener le corps de ma sœur à Montpellier pour lui faire une autopsie.
D'accord.
Donc l'autopsie sera faite 2 jours après son décès. Et donc quelques temps après, on aura les résultats qui vont confirmer qu'elle a été tuée par strangulation. Voilà.
D'accord. Donc là, je suppose que les policiers vont aller voir la compagne de votre sœur.
Tout à fait. Sauf que. Alors, il faut savoir que ce soir-là, sa compagne n'a pas voulu se déplacer à l'hôpital, puisqu'elles avaient des animaux. Donc, elle est restée à la maison, pendant que ma sœur était à l'hôpital. Donc, il faut savoir que, par la suite, quand la doctoresse de l'hôpital appellera sa compagne pour l'avertir que Valérie vit ses dernières heures, la compagne mettra le feu dans la maison. D'accord. En tuant en même temps, au passage, les 5 animaux.
D'accord. Donc ça veut dire qu'elle a mis le feu pour faire disparaître toutes les preuves. Bon, on va marquer une pause, si vous le voulez bien, Élodie, et on va se reparler après le journal de la nuit, d'accord ?
Très bien.
Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Il est 6:00 sur Europe 1 et c'est votre libre antenne qui vous accompagne en direct jusqu'à 1h du matin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installé chez vous et que cette libre antenne est pour vous l'occasion d'identifier certaines choses qui ont pu se passer dans vos vies ou en tout cas qui vous permettent de prendre position, d'avoir d'autres raisonnements. Nous parlons ce soir avec Élodie, qui nous conte l'histoire de sa sœur Valérie, qui a perdu sa vie donc en octobre 2018, c'est ça, Élodie ?
Oui, tout à fait, oui.
Et qui en fait a perdu la vie sous les coups de sa compagne, oui. Qui a visiblement maquillé cette mort. Comme un suicide.
Oui.
Nous en étions donc à l'étape judiciaire hein, des choses. Vous me disiez que la compagne de votre sœur, sachant que la police allait venir, avait mis feu à c'était quoi, une maison, un appartement ?
C'était une maison.
D'accord. Est-ce que qu'a fait la police en fait devant tout ça ?
Alors la police, bon, quand elle a mis le feu, c'était très tard dans la nuit, il devait être aux alentours de 2-3 heures du matin. Donc, ils sont pas intervenus comme ça de suite. En plus, bon, la maison était quand même bien, bien embrasée. Hein, donc, elle a été complètement détruite, cette maison. Hein. Donc, de ce fait, bon, la compagne a été sortie de cette maison et amenée à l'hôpital parce qu'elle avait, elle avait été un petit peu brûlée. Et ensuite... l'enquête va déterminer clairement qu'elle aura mis le feu pour détruire les preuves. Voilà.
D'accord. Et est-ce qu'elle est inquiétée par la police, donc cette femme ?
Oui, alors, oui. Étant donné, par rapport à ses brûlures, elle a été incarcérée un petit peu tard. Hein. Donc ma sœur est morte en octobre 2018 hein, et sa compagne sera écrouée fin décembre 2018, mais ressortira 4 mois plus tard.
Comment
là, actuellement, elle est en liberté. C'est-à-dire qu'elle a fait les demandes de remise en liberté et donc elle a été relâchée au bout de 4 mois de détention On n'a aucun motif de sa libération. On sait juste qu'elle a été relâchée et ça, on l'a appris parce qu'elle se connecte sur les comptes Facebook de Valérie.
C'est-à-dire que cette femme qui est donc sous le coup d'une inculpation pour assassinat a été relâchée.
Exactement, oui, tout à fait.
Et vous ne connaissez pas, vous ne savez pas pourquoi, en fait.
Non. Et donc, on ne nous répond pas. On ne nous répond pas. Alors, je veux bien que l'enquête donc soit encore en cours d'instruction, mais quand même, minimum, surtout pour mes parents, c'est au moins de leur expliquer quand même certains points au niveau de l'enquête, même si on ne peut pas tout nous dire, je peux le comprendre, mais quand même de ne pas savoir que la meurtrière de leur enfant est en liberté, c'est très très grave pour nous.
Bien sûr, mais quand vous dites qu'elle se connecte sur les comptes de votre sœur, expliquez-moi ça, comment est-ce que vous avez pu voir ça?
Parce que mon père a reçu des notifications de sa fille décédée.
D'accord.
Voilà. Donc il y a aussi également la meilleure amie de Valérie qui avait vu, qui avait des connexions sur le compte de ma sœur. Et c'est vrai que comme ça, on a été alertés. Et quand on s'est renseigné donc à notre avocate n'était pas au courant. Elle a dû contacter le tribunal qui lui a confirmé qu'elle était sortie. Et ça, nous l'avons appris seulement 2 mois après.
Et qu'a-t-on dit à votre avocate sur le fait qu'elle soit sortie de prison, comme ça?
Rien de plus, à part qu'elle avait fait 3 demandes et qu'à la 3e, ils lui ont accordé la remise en liberté. Mais sans motif valable, quoi.
Oui, donc j'imagine combien vous devez mal vivre cette décision-là.
Oui. Ah oui, on le vit vraiment, vraiment très, très mal.
Parce qu'il va y avoir un procès, donc il va y avoir quoi? Ça va être devant une cour d'assises? Est-ce qu'on vous a...
Oui. Alors oui, on nous a dit devant une cour d'assises. Après, vraiment, on l'espère, parce que c'est vrai qu'on est quand même relativement inquiet. Nous, on sait que Valérie, elle a été tuée, assassinée, massacrée, parce que moi, je peux en témoigner. J'ai lavé son corps à la morgue, donc j'ai vu exactement ce qu'elle lui a fait. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est la justice pour Valérie et et pour toutes les autres victimes aussi qui vivent des violences conjugales. Et surtout que la justice accompagne quand même les familles minimum et qui nous tiennent un petit peu au courant et qui ne nous mettent pas de côté parce qu'on se sent oublié, et encore plus pour les victimes.
Mais c'est-à-dire que votre témoignage ce soir dans le contexte actuel où on nous parle d'avancer sur les violences conjugales, fait un peu tâche parce que c'est assez incompréhensible de voir ce que vous vivez aujourd'hui et que vous n'ayez même pas été informé que cette femme est sortie et que pour quel motif, parce que c'est assez incroyable ce que vous me racontez.
C'est ça, c'est complètement incroyable. Pour nous, on vit un cauchemar permanent depuis le mois d'octobre et ça ne s'arrête pas, quoi. Ça ne s'arrête pas.
Quel parquet est responsable de cette décision?
Le parquet de Narbonne.
D'accord. Oui, j'allais vous demander comment vous viviez ça, mais comment le vivre autrement que...
Si vous préférez, nous, actuellement, on survit. Voilà, on survit. On vit un cauchemar permanent. Heureusement que nous sommes une famille soudée parce que vraiment, c'est pas évident. Mes parents, leurs enfants, ils vont l'avoir au cimetière, quoi. Enfin, vous imaginez, pour toutes les personnes qui peuvent écouter, qui sont parents, ils ne peuvent même pas imaginer la souffrance qu'ils ont, quoi. Un parent ne devrait pas avoir à enterrer un enfant ou aller le voir au cimetière.
C'est clair.
Voilà. Voilà la vie que nous vivons, quoi. La douleur que tous les jours nous subissons.
Et que dit votre avocat de cette situation-là? Est-ce que le procès, parce que ça va faire maintenant octobre 2018, ça va faire un an et demi. C'est toujours en instruction. Est-ce que vous avez des nouvelles de ça? Est-ce que...
Non, justement, on n'en a aucune. Même l'avocate elle-même n'est même pas tenue au courant. Donc à chaque fois, on la relance, mais elle ne sait rien puisqu'elle attend des nouvelles du tribunal. Mais il n'y a rien de plus. Rien de plus.
Qu'est-ce que vous voudriez, vous, aujourd'hui, Élodie? Qu'est-ce que vous voudriez, vous, aujourd'hui, ainsi que vos parents, en fait?
Alors là, être entendue par la justice, qui au moins tienne au courant mes parents de l'avancée de l'enquête sur certains points. Je dis pas tout, parce que je peux comprendre qu'ils sont tenus au secret sur certaines choses. Mais au moins de savoir où ça en est et pourquoi elle a été relâchée. Et surtout, d'obtenir la justice pour Valérie. Parce qu'après, nous, notre combat, il va continuer. Quand on aura obtenu aussi la justice pour Valérie, on va continuer pour toutes les autres victimes. On ne va pas s'arrêter.
Je comprends.
Voilà, nous, c'est ça qu'on recherche, c'est d'être entendu, être soutenu aussi, parce que on n'a pas du tout été accompagné, on n'a pas du tout été écouté depuis le début, et on se sent comme des oubliés, surtout pour Valérie.
Mais oui, bien sûr. Voilà. Surtout avec des conclusions comme vous les avez racontées, c'est-à-dire des conclusions qui, avec l'attitude des pompiers ensuite, ouais, et celle des médecins qui établissent que ce n'est pas un suicide.
Oui, parce que quand même, il faut prendre en compte aussi que bon, quand ma sœur a été retrouvée, donc chez elle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait 3 organes qui avaient lâché, le cerveau, le foie et un rein, mais sans oublier qu'elle avait quand même perdu 4 degrés. Elle était qu'à 33 degrés au niveau du corps. Normalement, quand on meurt, on perd 1 degré par heure. Donc ça faisait un petit moment que voilà, la compagne, moi, je soupçonne qu'elle n'a pas averti les pompiers de suite comme elle le prétend. D'accord. Donc pour moi, c'est bien un assassinat, vous voyez. Voilà.
Il est certain qu'il y a pas mal de zones d'ombre, en tout cas dans l'attitude de cette femme.
Tout à fait. Et surtout aussi, ce qu'on ne comprend pas, c'est que bon, on nous a également appris que ma sœur n'avait pas eu de moyens réels de se défendre, étant donné qu'elle était complètement ensuquée.
C'est-à-dire
donc avec des médicaments type benzodiazépine. Alors certes, elle avait un petit traitement d'exomil qu'elle prenait, mais les nanogrammes ne correspondent absolument pas avec ce qui a été retrouvé dans les analyses toxicologiques. Voilà, et ça, on ne nous dit rien, on a apporté des éléments, il y a pas mal de choses qu'on a données aux enquêteurs, mais on dirait que tout ce qu'on donne, ça suffit jamais pour eux. Ça ne suffit pas. Il y a même des vidéos qui circulent sur Internet de la veille de la mort de ma sœur, quand même, où on la voit avec des coups. Voilà. On la voit où ça se passe mal entre elles, et l'autre, donc elle a menace à la fin de cette vidéo. Enfin, c'est très explicite. Hein.
À votre avis, ça tient à quoi qu'on ne vous entende pas et que cette femme soit libérée? Est-ce que vous donnez un sens à tout ça ou
On se pose la question. C'est pas pourquoi elle a été relâchée. On ne sait pas pourquoi on dirait qu'ils ne tiennent pas compte de beaucoup de choses. Je ne sais pas si c'est parce que c'est la communauté lesbienne. Je ne veux pas accuser. Moi, je me pose la question, c'est tout. Je me pose la question. Parce qu'il faut savoir que ma sœur, quand même, n'a pas été comptée dans les victimes en 2018. Parce qu'elle est lesbienne. Pour moi, c'est pas possible. C'est pas normal.
Ce que vous entendez par là, c'est que les féminicides peuvent être... En fait, ça peut être l'œuvre de femmes aussi qui frappent, hein, c'est ça ?
Exactement, c'est ça. D'accord. Ce que je veux dire. C'est pas... Et voilà, on entend souvent féminicide, donc c'est l'homme qui a tué la femme. Mais non, mais il n'y a pas que l'homme. Hein. Les femmes, même, moi, je dirais qu'elles sont pires que les hommes. Et qu'il y a beaucoup de femmes qui s'attaquent aux hommes. Et justement, on n'en parle pas aussi suffisamment.
On en a parlé souvent, ici,
oui,
sur cette libre antenne.
Donc ça, c'est très bien. Ouais. Au moins, la parole se libère.
Très bien, Élodie. Mais écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage à vous et à vos parents pour aller au bout de ce combat, parce que ça doit être extrêmement difficile pour vous de supporter cette décision de voir déjà cette femme avoir été libérée sans qu'on vous en informe déjà, ce que je trouve incroyable. Bon, mais ça doit être encore une habitude, hein, quelque chose qui, voilà, peut-être que en justice, on ne prévient pas les parents de la victime. Enfin, ce qui m'étonne dans ce cadre où il y a quand même des violences et surtout des soupçons d'assassinat. Ça me paraît totalement incroyable. Je vous souhaite bon courage à vous et à vos parents. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à nous tenir au courant ici sur Europe 1 de la suite des événements. Et puis, si, bien évidemment, s'il y a un procès d'assises qui arrive, n'hésitez pas à nous appeler. D'accord ?
Oui, oui. Eh bien, je n'y manquerai pas. Et je tiens à vous remercier de nous avoir aussi donné la parole, de nous permettre de parler de l'histoire de Valérie et pour toutes les autres victimes. Voilà, c'est hyper important.
C'est très important. Très important pour nous aussi. Je vous remercie beaucoup, Élodie, et je vous souhaite une bonne nuit.
Merci. Au revoir. De même, au revoir.